Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Luc-Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Yanis Diudad. Nouvelle série donc consacrée au café. C'est après l'eau la seconde boisson la plus consommée et la demande continue d'augmenter. La façon de la produire, de le produire, de le préparer, de le déguster connaît une infinie variété de déclinaisons. En grains, solubles, robusta, arabica, des champs où poussent les caféiers, si convoités jusqu'à la tasse où on le déguste plongé dans le monde du café. Mardi, nous nous intéresserons particulièrement aux plantations. Mercredi, nous nous pencherons sur l'art de le préparer, de le servir et de le consommer. Jeudi, il sera question de goût. Mais aujourd'hui, place au marché du café, un marché en pleine recomposition, en pleine mutation, mais un marché qui incarne parfaitement la nature et l'évolution des échanges commerciaux internationaux. Sao Paulo, Abidjan, Hanoï, l'industrie monde du café, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il y a beaucoup de pauvreté dans les régions caféières, et encore plus maintenant avec les variations du prix du café. Cette montée, descente, qui peut varier en quelques heures sans que l'on ne puisse rien y faire, ça nous désoriente vraiment parce que nous calculons tout au plus juste.
La situation est catastrophique. La récolte n'a pas été faite parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc les propriétaires l'ont abandonné.
Notre crise est due au manque de financement, à cause des taux d'intérêt très forts et un manque de politique pour négocier le remboursement sur le long terme des dettes avec de faibles intérêts.
De la Colombie au Guatemala, mais aussi bien au-delà, les producteurs de café ont bien du mal à tirer profit de leur labeur. Découvert au XIIe siècle vers l'actuelle Éthiopie, le café est désormais cultivé dans toute la ceinture tropicale, mais consommé dans le monde entier. C'est la deuxième matière agricole la plus commercialisée en valeur. Deuxième matière, pardon, pas agricole, après le pétrole, mais la première matière agricole échangée. Un enjeu économique majeur, les échanges mondiaux représentent entre 10 et 15 milliards de dollars selon les années, mais aussi un enjeu social. La production fait vivre directement quelques 25 millions de personnes, plus de 100 millions si on regarde l'ensemble de la filière. Alors si sa consommation stagne un petit peu dans les pays occidentaux, elle continue de progresser dans les pays émergents. Pourtant, les producteurs, eux, ne bénéficient pas de cette croissance. Alors comment le comprendre? Comment comprendre que le chiffre d'affaires du secteur progresse alors que la part revenant aux producteurs, elle, décélère, ce que les spécialistes appellent parfois le paradoxe du café? Et comment les pays producteurs font-ils face à cette crise du café? Les dernières années ont été difficiles pour les cultivateurs de caféiers. En effet, depuis 3 ans maintenant, la production caféière mondiale est inférieure à la consommation, ce qui tend à diminuer dangereusement les stocks mondiaux. Quels sont les effets de la diminution des réserves sur les cours du café? Et au-delà du contexte conjoncturel, comment se structure ce marché mondial? Comment a-t-il évolué ces dernières années? Quels ont été les effets de sa dérégulation survenue en 1989, après plus de 35 ans de régulation définie par un accord international? On y reviendra. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité un grand spécialiste du café connu et reconnu, Philippe Juglar, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Limoges. Vous êtes consultant pour la société ABCD, Agrobusiness Consulting and Development, et puis aussi président de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Un observateur attentif de ce marché du café depuis quoi? Une trentaine d'années maintenant, Philippe Juglar?
Je suis rentré dans le café dans les années 85.
Tombé dedans quand vous étiez petit. Alors ces derniers mois, on va commencer un peu avec l'actualité, Philippe Juglar, si vous le voulez bien. La production de café n'a pas été très bonne au niveau mondial, notamment parce que le Brésil a connu des sécheresses qui ont diminué bien sûr les récoltes, et en particulier celles du Robusta. Les réserves sont en train de diminuer. Le mois dernier, par exemple, le numéro 1 mondial du café, le Brésil, a vendu les 3733 sacs de 60 kilos des entrepôts gouvernementaux qui lui restaient. Tout un symbole, c'est la première fois depuis 10 ans qu'on atteint des si faibles niveaux de stock. Je vais vous poser la question de façon brutale et puis on nuancera les choses ensuite. Mais est-ce qu'il existe un risque de pénurie? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans les mois, dans les années qui viennent, avec des difficultés pour approvisionner des consommateurs qui, eux, je le disais, sont de plus en plus nombreux, Philippe Juglar?
Écoutez, de ma maintenant relativement longue expérience des matières premières en général et du café en particulier, quand un marché dit que l'on risque une pénurie, c'est qu'on risque de ne plus trouver du café au prix où on a envie de l'acheter. C'est le point de vue des acheteurs. Mais du café, il y en aura. Il faudra peut-être mettre un peu plus la main à la bourse, à la poche.
L'état des réserves mondiales aujourd'hui, c'est quoi? Où se situent les stocks?
On n'en sait absolument rien et c'est toute la merveille de notre période moderne, soi-disant en fait de clarté, c'est que on sait de moins en moins ce qui se passe dans les marchés. Les stocks, par exemple, en Europe, qui étaient dans les ports et donc visibles pour tout le monde, sont maintenant dans des entrepôts privés. Et bien malin sait à quel niveau sont réellement les stocks aujourd'hui. Grosso modo, on sait que les stocks se sont déplacés plutôt vers les pays consommateurs, ce qui explique que les cours du café ne soient pas non plus tellement excités malgré ces éventuels risques. Mais c'est comme toutes les matières premières, on est sur un marché de rumeurs où le plus malin, comme au poker, est celui qui va essayer de sortir du jeu le mieux possible.
Alors on essaiera de comprendre tout ça, mais d'abord peut-être un peu de géographie, Philippe Juglar. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les principaux pays producteurs? Tout le monde ne sait pas, tous nos auditeurs ne connaissent pas les pays dans lesquels se produit l'essentiel de ce café.
Alors, tous les cafés arabica du monde viennent globalement d'Éthiopie. C'est là qu'on a trouvé les premiers plants de café qui sont passés petit à petit dans toute la zone intertropicale du monde. Donc vous avez du café dans toutes ces zones qui se situent entre les deux tropiques. La deuxième variété de café qui a été mise en avant par les Français entre les deux guerres mondiales, c'est le café Robusta qu'on a trouvé dans le bassin du Congo et qui a irrigué toute cette même zone, mais à des altitudes beaucoup plus basses.
Qui est le plus répandu aujourd'hui?
Non, c'est pas le plus répandu. Il fait à peu près 40% de la, 40% de la production. Mais vous avez donc toutes les zones globalement au niveau de la mer qui font du Robusta et toutes les zones en altitude qui font de l'Arabica.
Et si on regarde le classement sur l'année 2014, le Brésil faisait à peu près 30% de la production mondiale, le Vietnam à peu près 12%, la Colombie juste derrière 11%, et puis ensuite encore un peu derrière l'Indonésie 6%, l'Éthiopie 5%, l'Inde 4%, le Mexique 3,5% et la Côte d'Ivoire 2%. Je laisse les autres qui sont peut-être un peu derrière. Philippe Juglar.
Alors, ce qui est intéressant dans le palmarès que vous nous donnez, c'est la place du Vietnam. Rappelez-vous qu'il y a 20 ans, le Vietnam n'apparaissait pas dans les statistiques mondiales. C'est vous dire le bond en avant de ce pays qui a complètement chamboulé, déséquilibré ou rééquilibré l'offre du café. Par contre, le Brésil est le numéro 1. Il est le numéro 1, j'allais dire, presque depuis toujours. En tout cas, depuis le début du 19e siècle, depuis le début du 20e siècle, pardon. Et ce grand pays reste le numéro 1 de la production mondiale de café.
Et justement, alors on parlera tout à l'heure évidemment du Vietnam qui est un nouvel acteur. On verra ce qu'il a changé finalement à ce paysage. Mais la prépondérance quand même du Brésil dans le paysage fait que dès qu'il y a une crise du café au Brésil, c'est tout le marché mondial qui est déstabilisé. Et d'ailleurs, l'histoire est jonchée de crises brésiliennes qui ont provoqué une flambée des prix. 75, 94, 97, des années où il y avait eu du gel qui avait détruit beaucoup de caféiers au Brésil. Quand le Brésil s'enrhume, c'est le monde qui éternue.
Et avec ce paradoxe extraordinaire, c'est que si le Brésil est un acteur essentiel dans le monde du café, le café au Brésil est de moins en moins important. Et c'est le cas de tous les pays d'Amérique latine qui se sont développés depuis 25-30 ans maintenant, qui ont développé de nouveaux secteurs économiques. Et le secteur café reste important sur le plan social, sociétal, parce qu'il fait vivre beaucoup de gens. Mais sur le plan du poids du PNB, c'est pas pour le café que le Brésil va risquer ses intérêts pour la construction automobile ou la construction d'avions.
Oui, il fait vivre beaucoup de personnes, vous avez raison. Parce qu'il faut préciser aussi que la majorité du café produit est le fait de petites exploitations familiales. Alors ce qui permet évidemment de créer de nombreux emplois, je le rappelais tout à l'heure dans mon introduction. Mais en revanche, ça les rend extrêmement exposés, fragiles aux crises.
Oui, oui et non, parce que vous avez, comment dire les choses sans être trop cynique, une souplesse d'adaptation chez ces tout petits exploitants agricoles qui est tout à fait extraordinaire. Deuxièmement, ils ont la possibilité de s'organiser soit en coopérative, je pense au Costa Rica par exemple, qui a des systèmes de coopératives tout à fait remarquables, soit dans des organisations de producteurs, comme cela existe en Colombie, avec une Fédération Nationale des Cafeteros des Colombia, qui est probablement la plus grosse ONG en matière de café, et qui est un véritable acteur au service de ses membres.
Vous connaissez très bien la Colombie, peut-être qu'on y reviendra, Philippe Juglar, mais avant de venir à la question de la régulation sur cet accord très important qui avait été mis en place dans les années 60 et qui finalement a été suspendu à la fin des années 80, un mot sur la question des prix. Quel a été l'impact de la baisse de production que j'évoquais, notamment venue du Brésil, sur les cours du café ?
Bah écoutez, pour l'instant, relativement faible. Les cours du café ne se redressent pas encore au niveau des producteurs, même s'ils sont bien meilleurs qu'au lendemain de la crise de 89. On est sur des cours du café qui n'ont pas encore connu d'excitation comme on en a connu. Alors, les grands moments d'excitation, ça a été essentiellement les gelées au Brésil. Ça a été les sécheresses. Alors, la sécheresse est beaucoup plus difficile à mesurer parce que la sécheresse, on ne sait jamais très bien quel est le pourcentage de fleurs qui va être détruit par la sécheresse. Par contre, une bonne gelée, ça c'est clair, c'est net, il y a des régions entières qui ne vont plus produire et on peut assez facilement mesurer l'impact d'une gelée.
Et puis par ailleurs, la variation de la production n'est pas la seule responsable de la fluctuation des prix. Il y a aussi une forte spéculation quand même sur le marché du café, ce qui provoque là aussi des évolutions dans les cours du café.
Alors oui et non.
Et non.
Oui et non. J'essaie de m'expliquer. La spéculation est un amplificateur de phénomènes de court terme. C'est-à-dire que tout le monde pensant de la même façon, et les spéculateurs pensant de la même façon, vont avoir tendance à accentuer les évolutions. Mais par rapport à des évolutions fondamentales, le spéculateur finit toujours par perdre. Le marché, dans ses équilibres d'offres et demandes, finit par toujours trouver la raison. C'est d'ailleurs ce qui avait, à l'époque, présidé à la suppression de l'accord international du café, en pensant que le marché serait peut-être le meilleur moyen de trouver les équilibres fondamentaux qui permettent d'équilibrer l'offre et la demande.
Mais dites-moi, si les niveaux de stock sont faibles, même si, comme vous nous le disiez, on ne sait pas exactement l'état de ces stocks, mais on sait qu'ils sont en train de diminuer et que les perspectives de production sont incertaines, les spéculateurs pourraient, voire même devraient, parier sur une augmentation des prix.
Oui, normalement, mais qu'est-ce qui va se passer réellement ? Quelle est la réalité de la sécheresse brésilienne ? Je citais la Colombie tout à l'heure. N'oubliez pas qu'un pays comme la Colombie est un pays qui vient de repasser de 6 à 11 millions de sacs à peu près de production en quelques années. Je rentre d'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays qui a un potentiel de production extraordinairement important et qui aujourd'hui à des autorités caféières qui semblent enfin prendre le problème à bras-le-corps. Et donc, il y a là un potentiel de production qui est tout à fait significatif aussi.
Oui, donc ça peut compenser.
Ceci peut compenser cela. Oui. Ce qui est important, si vous voulez, pour rester sur des grandes masses, c'est que, grosso modo, sur les 20 dernières années, la production et la consommation ont suivi des courbes comparables et parallèles et qu'on est passé globalement de l'ordre de 110 millions de sacs à 150 millions de sacs et que avec des ajustements année par année toujours délicats, globalement les deux courbes sont parallèles.
Alors la question de la régulation, Philippe Juglar. 1962, les principaux pays producteurs de café mais aussi les pays consommateurs signent un accord visant à organiser les exportations et à contenir justement les fluctuations des cours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être le contexte dans lequel on signe cet accord international sur le café et ce qui va changer très concrètement ?
Alors, on se remet dans l'économie mondiale d'après-guerre. On est dans un esprit globalement keynésien et on essaye d'équilibrer les échanges internationaux. Et l'ensemble de la communauté des pays producteurs et la totalité des pays consommateurs de l'Ouest, le Comecon, donc le groupement des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, ne fait pas partie de l'accord, s'entendent pour mettre en place un système de timbres qui permettent de faire de la rétention de café ou de la mise de café sur le marché en fonction de l'évolution des cours. et le système va fonctionner globalement jusque 89.
C'est un système de quotas en fait, un peu comme faisaient les pays de producteurs de pétrole.
Avec une différence, c'est que les consommateurs sont partie prenante.
Absolument, oui.
Dans l'OPEP, vous avez uniquement les producteurs qui retiennent ou qui lâchent des quantités. Dans le cas de l'accord du café, à l'époque, les producteurs et les consommateurs s'entendent sur les rétentions ou sur les libérations de marché qu'il va y avoir lieu de faire.
D'accord, donc les consommateurs sont aussi partis de cet accord. Exactement. 1989, c'est la fin précisément de ces accords qui organisent ce système de quotas. On laisse place à un système de libre-échange. Première question, pourquoi est-ce qu'on suspend ces accords internationaux qui jusqu'ici avaient quand même montré une certaine efficacité? Et puis, quelles ont été précisément les conséquences de cette dérégulation?
Alors, il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est la mode. On ne mesure jamais la dictate de la mode en matière de taille des cravates ou de pensée économique. Et la mode est au libéralisme. Tout doit être libéralisé. Les caisses de stabilisation dans les pays producteurs d'Afrique, on y reviendra sans doute, doivent disparaître. Tous les systèmes de régulation du marché sont par définition malsains. Seul le grand marché est le bon instrument qui permet le bonheur des peuples, comme chacun sait. Donc on a un phénomène de mode. On a aussi, il faut bien le dire, deux distorsions qui s'aggravent au fil des ans. La première distorsion, c'est le prix pratiqué dans les pays de l'Ouest et les pays du bloc de l'Est. La Russie et ses satellites de l'Est, je vous rappelle que le rideau de fer existe encore à l'époque, achètent leur café globalement 40% moins cher que les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Donc pourquoi et est-ce qu'il ne serait pas lieu d'équilibrer un petit peu tout ce marché? Par ailleurs, les quotas ont été fixés à un moment donné et il est évident que des pays producteurs qui ont augmenté de façon importante leur production, je pense au Mexique en particulier, n'arrivent pas à placer leur café dans les pays de l'Ouest de l'Europe et aux États-Unis parce que ils ont des vieux quotas. L'autre chose qui apparaît, c'est qu'il y a une demande de plus en plus pressante pour des cafés arabica et des cafés arabica doux en particulier. Et on a des différentiels entre la bourse et le prix pratiqué qui augmentent d'année en année. Donc toutes ces raisons militent et tous les acteurs sont favorables à la suppression des quotas en se disant « bon, on va peut-être avoir quelques mois de difficultés, mais finalement les cours vont se trouver grosso modo à mi-chemin entre ce qui est pratiqué en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est, et puis les choses seront beaucoup plus simples,
tous les pays se disent
d'administration, etc. »
Et puis tous les pays se disent que finalement ils vont pouvoir bénéficier de tout ça et vendre davantage leur propre production, donc...
Alors, chaque pays producteur est tenté, tous les négociants sont ravis parce qu'ils se frottent les mains en se disant « ça y est, on va pouvoir enfin manger nos petits camarades, c'est les plus gros qui vont gagner ». Donc tout le monde est favorable et les pays consommateurs, à l'exception de la France, il faut bien le dire, sont plutôt favorables à une mesure qui, globalement, devrait baisser le cours d'une matière première significative
La France, à l'époque, est opposée.
La France est opposée parce que elle porte tout de même, à l'époque encore, de façon très importante, les intérêts des pays producteurs d'Afrique de l'Ouest. Et elle sait bien ce que ça va coûter de soutenir le franc CFA le jour où les cours du café vont s'effondrer. Donc la France est plutôt favorable, et même carrément favorable, au maintien des accords à l'époque.
Donc on est dorénavant dans un contexte où les échanges mondiaux de café sont dirigés au niveau des importateurs et des transformateurs plutôt qu'au niveau des producteurs. C'est donc la grande distribution, mais aussi les firmes de torréfaction qui tiennent les rênes de tout ça et qui tirent parti de ce nouvel environnement. C'est eux les grands gagnants.
Je crois que c'est le consommateur, le grand gagnant. Excusez-moi.
En tout cas, c'est pas le producteur.
C'est certainement pas le producteur. Alors l'effet de cette dérégulation a été dévastateur. Pensez qu'il a fallu pratiquement 20 ans pour retrouver les cours d'avant la dérégulation. Donc 20 ans de souffrance pour les producteurs d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie. Deuxième grand perdant de l'opération, ça a été le négoce international qui a pratiquement disparu. Assez paradoxalement, un négociant ne vit bien que dans des marchés contrôlés, opaques, complexes. Le libéralisme est par définition la mort des intermédiaires. Et ceux qui ont trouvé leur compte, c'est in fine le consommateur qui a vu le prix de son paquet de café baisser parce que la distribution s'est employée effectivement dans une guerre de prix de concurrence agressive à faire baisser le prix du café qui a été un produit d'appel dans un certain nombre d'enseignes de distribution à l'époque.
J'entends parfaitement l'argument, Philippe Juglard. Vous avez raison, les consommateurs ont profité de cette dérégulation. Mais quand on regarde le chiffre d'affaires du secteur, on voit qu'il est en augmentation constante depuis ces années-là. Et pourtant, les producteurs, eux, bénéficient de moins en moins de cette croissance. C'est ce que certains appellent le paradoxe du café, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Benoît Daviron et de Stefano Ponte. Comment expliquer ce paradoxe du café ?
Alors, c'est pas spécifique au café. Vous avez ça sur beaucoup de matières premières agricoles. Grosso modo, dans le prix final que paye le consommateur pour acheter son paquet de café, il y a de moins en moins de café et de plus en plus d'autres choses. Alors, c'est quoi cette autre chose ? Ben, ça peut être l'emballage. Vous avez, par exemple, la mode des capsules de café que vous avez vu se répandre en France en particulier, puisque ça a été le point de départ de ce marché, où il y a effectivement quelqu'un qui doit bien payer cet emballage perdu qui va aller à la poubelle. La deuxième chose qui s'est développée au cours des années, c'est la sophistication du marketing. Si vous remontez aux années, mettons, 70, le café en France est encore un produit qui est vendu par des torréfacteurs régionaux, qui dépensent pas grand-chose en matière de communication et de publicité. Et puis la grande distribution arrive, et puis le café se vend comme les lessives, et les budgets d'implantation d'une marque de café sont devenus absolument colossaux. Une grande marque de café aujourd'hui, sur le marché français, c'est un investissement public-promotionnel minimum de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc il faut bien l'amortir quelque part. Donc voilà tous les phénomènes qui expliquent pourquoi, petit à petit, les producteurs reçoivent de moins en moins en proportion de part du prix de vente du kilo de café au consommateur.
Alors Philippe Juglard, les partisans notamment de cette dérégulation nous expliquent que les producteurs ont un certain nombre d'outils à leur disposition pour justement se prémunir des risques de fluctuations. Et parmi ces outils, il y en a évidemment d'autres qu'on abordera tout à l'heure, notamment la question des certifications, des dénominations d'origine, etc. Mais il y a cette question des marchés à terme, qui est un marché où l'engagement pris par le donneur d'ordre s'exécute à une échéance dont la date est postérieure à la date de l'engagement. Il y a des marchés à terme pour le café à Londres, à New York. A priori, c'est quelque chose qui devrait pouvoir protéger un peu les agriculteurs, les producteurs, sauf que dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Les producteurs l'utilisent quasiment jamais.
Ils l'utilisent très mal, très peu, parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, ou parce que même leurs organisations professionnelles, parce qu'il y a des organisations professionnelles qui ont des moyens financiers, ne cherchent pas à l'utiliser. Parce que quand je suis le possesseur d'une matière, mon meilleur arbitrage, c'est mon stock. En fait, je mets ou je ne mets pas sur le marché, mais tout ça est une question de trésorerie. De même qu'un arbitrage en bourse, c'est une question de trésorerie. Ai-je les moyens ou pas de prendre des options sur un marché à terme ? Est-ce que mes banquiers me suivent ? C'est là la vérité ultime d'un marché. Où se fait le marché ? Il se fait dans l'accord que votre banquier vous donne de financer vos appels de marge le soir, parce que c'est tous les soirs qu'on vous appelle dans un marché à terme. C'est des sommes colossales. Et dans un marché qui est de plus en plus tenu par des opérateurs de plus en plus gigantesques. Les bons vieux négociants de café qui étaient les principaux opérateurs en bourse à côté de quelques petits spéculateurs sont absolument dépassés parce qu'aujourd'hui les gros investisseurs en bourse, ces fameux funds qui investissent aujourd'hui sur le café, demain sur des produits financiers, après-demain sur le cacao, etc. et qui en quelques heures peuvent switcher, en quelques minutes, peuvent switcher d'une matière à l'autre et arriver avec des sommes absolument gigantesques face auxquelles aucun opérateur physique concret n'a les moyens de réellement répondre.
Donc il faut penser à d'autres outils. Et pour essayer de reprendre justement un peu la main sur la valeur de leur production, les caféiers ont développé des labels, des certifications, des indications géographiques. C'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Vous aviez d'ailleurs organisé une journée de débat l'année dernière avec des opérateurs venus d'Amérique latine, d'Afrique, autour de ce thème des dénominations d'origine en matière de café. Quels sont les résultats justement de ces initiatives sur les appellations d'origine? Est-ce qu'il y a des initiatives particulièrement notables que vous souhaiteriez peut-être évoquer? Et puis aussi les obstacles à son développement, Philippe Juglard.
Alors, je ferai une grande séparation entre les labels et les marques ou dénominations d'origine. Les labels de qualité, les labels bio, les labels sur un commerce équitable, les labels sur le respect de la nature, sont des labels qui, dans la très très grande majorité des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, ont été développés par les consommateurs et absolument pas par les producteurs. Car les producteurs, in fine, n'y trouvent pas réellement leur compte. On s'aperçoit que les marchés où des produits sont certifiés, le produit certifié devient la norme et que le prix du marché des produits certifiés rejoint le prix des produits non certifiés qui n'ont plus de place sur le marché. Alors par contre, les producteurs ont entre les mains ce qui leur appartient encore, c'est-à-dire leur marque, leur appellation d'origine, voire leur transformation du produit. Actuellement, au sein de l'association AFPA que vous avez citée tout à l'heure et que je préside, nous militons pour la commercialisation par les pays producteurs, au moins pour le segment des cafés fins, de cafés torréfiés par les producteurs eux-mêmes. Il n'y a plus aucune raison technologique pour que le café soit toujours considéré comme une matière d'échanges internationaux comme au XVIIIe siècle et qu'il soit torréfié auprès du consommateur aujourd'hui.
Mais il n'y a plus de raison, sauf que c'est encore largement le cas, Philippe Juglard.
C'est la totalité des cas. Hein. Ouais, c'est 99% du marché.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un vrai défi que celui de développer la torréfaction dans les pays producteurs.
Tout à fait. Mais ça se fait. Et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire d'abord parce que les pays producteurs sont devenus consommateurs. Et ça a été la grande révolution du marché au cours des 15 dernières années. Je vous ai dit que le marché est passé grosso modo de 110 millions de sacs à 150 millions de sacs. Les 40 millions de sacs, ils sont consommés sur place. Le Brésil, premier producteur du monde, est devenu le premier client du café du Brésil. Le café du Brésil, il ne part pas d'abord aux États-Unis ou en Europe, il part d'abord au Brésil. Pareil en Colombie, pareil au Mexique, pareil pratiquement dans toute l'Amérique latine. L'essor économique des 30 dernières années, ou en tout cas des 20 dernières années dans ces pays-là, fait qu'une classe moyenne a émergé et que cette classe moyenne, elle veut consommer comme les Européens ou comme les Américains et elle veut boire du bon café. Et donc, elle s'achète du bon café et il y a un marché local. Et ce marché local, ce sont de plus en plus des torréfacteurs locaux, donc des producteurs locaux qui se sont transformés en torréfacteurs locaux, qui le prennent et qui développent déjà leur vente sur leur propre marché. Vous savez, je me rappelle mes voyages en Amérique latine il y a 20 ans, quand vous voyez dans ces pays producteurs de magnifiques publicités pour des marques italiennes ou suisses qui célébraient leur café soluble ou leur café à la torréfaction italienne, ça faisait doucement sourire, mais ça faisait très mal aussi. Donc, ces pays producteurs commencent enfin, depuis 10 ans, disons, à s'accaparer le savoir et l'art du café.
Café Society, on parle toute cette semaine de café. Aujourd'hui, Sao Paulo, Abidjan, Hanoï, l'industrie monde du café, c'est le sujet qu'on aborde ce matin avec Philippe Juglard. Vous parliez du Brésil, on va l'évoquer justement.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Todo dia de manhã, a cidade treme. São os nossos guerreiros, fortes, no batente. Tem padeiro, jornalista, tem também economista, tem dentista, taxista e uma pá de artista. Dá uma pausa pra melhor render. Ponta firme e forte, tentar a sorte crescer. Pode crer que é fácil, cê sabe bem lá no fundo. Não é o mundo que te treme, é você que treme o mundo. Pilão.
Pilão, au café forte do Brésil, du café du Brésil, on va retrouver une nouvelle invitée, Martine Drollers. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, une spécialiste du Brésil, auteur notamment de ce que sais-je, le Brésil. Alors on le disait, la production de café brésilienne représente environ le tiers de la production mondiale, mais la production a fortement chuté depuis ces dernières années. En cause, il y a cette question de la sécheresse qui a touché les caféiculteurs ces trois dernières années. Le Brésil produit à la fois du café en grain et du café soluble, et pour répondre aux besoins de l'industrie du café soluble, le gouvernement a récemment décidé de réduire les taxes sur les importations de café étrangers, en particulier le Robusta, de moins bonne qualité peut-être, et utilisé dans la confection de café soluble, en provenance du Vietnam. Ce qui a provoqué, écoutez, la colère des producteurs. Écoutez. Ah, les producteurs de café qui, au mois de février dernier, manifestaient, cette décision du ministre de l'Agriculture, elle a provoqué, on l'entend, une crise très importante chez les caféiculteurs. Pendant longtemps, ils étaient protégés par un certain protectionnisme qui évitait qu'ils soient trop concurrencés. Et là, avec cette mesure, ils se retrouvaient exposés à la concurrence. Et d'ailleurs, la fronde Martin Drouler, ça a été tellement importante que finalement, le président Michel Temer a fait marche arrière. C'est dire si cette question, évidemment, éminemment sensible et politique, Martin Drouler.
Oui, bien sûr, le café a toujours une très grande importance dans ce pays depuis un siècle déjà, mais la grande transformation dont parlait l'interlocuteur précédent, ça c'est que le Brésil est devenu un grand consommateur de café, et donc du café de qualité, du café gourmet, etc. L'épisode que vous venez d'évoquer à propos du café Robusta, c'est celui d'un segment très particulier de la production du café au Brésil, hein, puisque le Brésil fait quasiment 80% de café arabica et 20% de café robusta, et le robusta allant à la fabrication essentiellement du café soluble. Et il est dans deux régions spécifiques du Brésil, l'Espírito Santo, d'ailleurs on vient d'entendre un extrait, donc des capixabas, les petits producteurs de café de l'Espírito Santo, qui ont eu dernièrement deux très très mauvaises récoltes de robusta, et les industries du café soluble brésiliennes sont allées chercher dans les stocks de robusta, puisqu'il y a toujours des stocks assez importants. Et c'est sur ce créneau-là qu'il y a eu ce débat en février. Mais j'ai regardé la presse récemment, il prévoit une récolte de 2017 bien meilleure que celle des deux années précédentes.
Oui, les choses devraient s'améliorer. Martin Drouler, le son est vraiment très mauvais, la connexion est très mauvaise. Donc on va tout simplement vous rappeler, peut-être sur un portable, en tout cas sur un autre numéro, pour améliorer cette liaison, pour que les auditeurs puissent vous entendre correctement. En attendant, je vais retrouver Philippe Juglar, qui est avec nous toujours en duplex depuis Limoges. Alors, je sais que vous ne connaissez pas particulièrement, Philippe Juglar, le cas du Brésil, mais ce qu'on remarque de façon assez globale, en réalité, dans tous ces pays qui sont confrontés à cette crise du café, c'est que tous ont essayé de développer la consommation intérieure. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans ces pays producteurs. Pour tenter de répondre à cette crise, on améliore, on encourage la consommation pour porter évidemment cette production. Philippe Juglar.
Absolument. Alors, il y a une volonté politique marquée par l'Organisation internationale du café, qui a subventionné des campagnes dans les pays producteurs, marquée par les autorités nationales en général, et puis qui correspond à l'attente du consommateur, parce que vous pouvez faire toutes les campagnes de promotion, s'il n'y a pas de demande, il ne se passera pas grand-chose. Et il y a effectivement une volonté de développement de la consommation de café qui correspond, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'émergence de ces classes moyennes qui veulent vivre et consommer, disons, comme on le fait dans les pays du Nord. Ce qui a un impact absolument extraordinaire sur la qualité du café et sur le comportement des caféiculteurs. Je vais prendre en comparaison des gens qu'on connaît bien ici en France, les vitiviniculteurs. Vous avez toute une race de producteurs de vin qui sont des amoureux de leur vigne et amoureux de leur vin, et qui, par le travail qu'ils font, qui dépasse souvent la rationalité économique, sortent des crus chaque année un petit peu différents, mais chaque année un petit peu meilleurs. Et globalement, nous avons des vins en France dont nous sommes fiers de la qualité. Et nous arrivons à exporter nos vins malgré la concurrence France de pays moins disant en termes de coût de production grâce à notre image, grâce à notre qualité. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ces pays producteurs de café. Et je pense en particulier aux pays les plus évolués économiquement. Il est évident qu'aujourd'hui, la Colombie n'a aucune chance d'être compétitif en matière de kilos de café par rapport au Vietnam. Pareil pour le Brésil. Le véritable arbitrage sur la production de café, c'est au niveau de l'ouvrier agricole que ça se passe. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie de gagner un salaire de misère pour récolter du café ? Dans ces pays qui connaissent un vrai développement, de moins en moins. Il faut donc les payer de plus en plus cher, tant mieux. Et du coup, il faut vendre le café de plus en plus cher. Et donc, il doit être un peu plus sophistiqué.
Il faut jouer sur la qualité. Exactement. Sur la qualité du café. On va retrouver Martine Drullers. On a amélioré notre liaison, Martine Drullers. Vous aviez, il y a une dizaine d'années maintenant, écrit un article intitulé « Stratégie caféière du Brésil dans le marché mondial ». Donc, vous expliquiez notamment qu'il y avait évidemment cette consommation intérieure qu'on essayait de favoriser, ce que j'évoquais à l'instant avec Philippe Juglar, mais le gouvernement a aussi mis en place toute une stratégie autour de trois axes. Alors, vous les expliquiez, vous disiez il y a l'innovation biotechnologique et technique, il y a les utilisations des moyens de la qualité en vue d'une segmentation plus efficace des marchés. Il y a la construction aussi, disiez-vous, d'une nouvelle gouvernance de la filière après la fin de l'accord international sur le café dont on parlait en 1989. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être en quelques mots ces différents axes et surtout nous dire ce qu'ils ont eu comme résultat pour chacun d'eux, Martine Drullers ?
Mais on peut se dire qu'il y a un renforcement du secteur café au Brésil par une diversification des acteurs et peut-être aussi une meilleure organisation locale. Je prendrai comme exemple Minas Gerais, qui est le premier État producteur du Brésil, qui a distingué ses régions géographiques pour faire l'origine du café du Cerrado, par exemple, alors qu'il y a 20 ans, c'était totalement inconnu au Brésil. Donc, il y a une diversification et un renforcement des organisations professionnelles. Alors, ce qui est intéressant au Brésil, c'est aussi le maintien de la petite production familiale. Une des régions du Minas Gerais, et justement le sud Minas, est tout à fait exemplaire de ce cas, et également l'Espírito Santo sur le Robusta dont nous parlions tout à l'heure. Et ce sont des petits producteurs familiaux qui vivent avec des plantations de 3 à 5 hectares et qui, par une commercialisation à travers des coopératives, réussissent à maintenir un niveau de vie suffisant, enfin, disons. Et en fond de ces régions assez dynamiques sur le plan de l'organisation des marchés.
Oui, il faut rappeler qu'au Brésil, effectivement, cette production de café, c'est des millions d'emplois. C'est quasiment 10 millions d'emplois sur l'ensemble du Brésil. L'une des avancées, pour répondre à cette crise du café, l'une des stratégies, Martine Drullers, ça a été de mettre en place aussi ces systèmes de valorisation qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure avec Philippe Juglar, c'est-à-dire ces labels, ces certifications, ces terroirs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a permis aux agriculteurs, aux caféiculteurs, d'améliorer la valeur de leur production ?
Oui, tout à fait. Et au Brésil, la recherche agronomique est aussi très importante et suit de près ces évolutions. C'est-à-dire, on a perfectionné les cultivars de café, les plantes originelles. On en fait des cafés beaucoup plus résistants. Là, actuellement, il y a un grand programme sur la lutte contre la sécheresse, puisque les caféiers en souffrent au moment de la floraison. Et donc, il y a des programmes qui sont vraiment très spécifiques sur l'amélioration de la plantation de café et puis l'accompagnement cultural des petits producteurs sur les cycles de café avec la rénovation au bout de 20 ans des caféiers, etc. Donc, il y a tout un plan d'accompagnement, de renouvellement en amont et en aval sur les cafés gourmets, les cafés de qualité, les cafés labellisés également, qui avant au Brésil n'étaient pas du tout connus et qui maintenant sont très très répandus. On a entendu la publicité qui se faisait sur le café Pilon, etc. Donc chaque café fait sa propre publicité et la consommation du café ne cesse d'augmenter au Brésil hein, depuis...
Oui, considérablement. Je crois que c'est des augmentations de l'ordre de 10%, 15% chaque année. Ouais. Philippe Juglard, il y a une centaine d'années, les caféiculteurs brésiliens produisaient à peu près 80% du café consommé dans le monde. Aujourd'hui, c'est à peine un tiers. Est-ce que cette tendance va se poursuivre? Pour le dire autrement, est-ce que le Brésil va continuer de perdre des parts de marché? Et on va évoquer dans quelques instants le cas du Vietnam qui, on le sait, lui, grappille justement ses parts de marché. Philippe Juglard.
Alors, je pense que globalement, vous avez deux phénomènes qui vont marquer l'évolution des pays producteurs. La première élément dont on n'a pas parlé, c'est l'évolution climatique. Il est évident qu'il y a des zones qui étaient propices au café et qui ne le sont plus. Et donc, le café se déplace dans des pays où le café se produit en altitude. Il monte en altitude pour retrouver un peu des températures plus acceptables pour lui. Le deuxième phénomène, comme je disais précédemment, c'est le développement économique. Plus un pays peut proposer à sa population des emplois satisfaisants, moins on trouvera facilement ces ouvriers agricoles payés avec un lance-pierre pour aller récolter, chercher les grains de café, les cerises de café dans les plantations.
Donc d'une certaine manière, si je vous comprends bien, Philippe Juglard, c'est plutôt justement le signe que le Brésil s'est bien développé, le fait qu'il consomme...
Absolument, c'est le paradoxe de la situation, avec tout de même un petit paradoxe supplémentaire dans le cas du Brésil, c'est que le café au Brésil est produit sur des plateaux, et donc cela permet une mécanisation. C'est pratiquement un des rares pays du monde où on peut récolter le café de façon aussi mécanique que l'on récolte des olives ou des raisins en Europe.
Alors avec ce constat, on pourrait se demander si la montée en puissance du Vietnam est plutôt source d'inquiétude, puisque vous y voyez une corrélation assez directe avec la question du développement. Mais en tout cas, je remercie Martine Droulers d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappellerai notamment ce « Que sais-je, le Brésil » qui était paru aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup Martine Droulers. On va se retrouver avec un nouvel invité qui est Votrun Dung. Bonjour Votrun Dung.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes basé à Ho Chi Minh. Alors, on le disait, on l'a dit déjà, en quelques années, ce Vietnam s'est hissé au deuxième rang des producteurs et exportateurs mondiaux, donc juste derrière ce Brésil qu'on évoquait à l'instant. D'après l'Association nationale de café et du cacao, sur l'année 2016, le pays a exporté plus de 1,8 million de tonnes de café pour une valeur de 3,5 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est un bond de 33% en volume et de 25% en valeur par rapport à l'année 2015. Comment expliquer cette prouesse, votre Ndung?
Écoutez, juste un petit rappel, le Vietnam reste le premier exportateur de Robusta, hein, 60% de consommation mondiale. Évidemment, on est en deuxième position après le Brésil, si on compte tous les cafés confondus. Pour répondre à votre question sur pourquoi ce bon, parce que la surface a carrément augmenté de 30% entre 2014, qui était à 400 000, un peu plus de 400 000 hectares, et là aujourd'hui on est à 650 000 hectares. Grosse production, certes, grosse importation, certes, mais ça n'apporte peu. Moins, beaucoup moins aujourd'hui qu'en 2015 ou 2014, la période où c'était la période d'or du café vietnamien. On en prend beaucoup, mais les producteurs en gagnent beaucoup moins.
Alors attendez, votre Ndung, il y a évidemment cette augmentation des surfaces qui évidemment explique en partie ce succès. Mais visiblement, il y a d'autres choses. Et on va regarder par exemple le niveau des rendements aussi des caféiers vietnamiens qui visiblement sont absolument excellents. On dit quasiment trois fois plus haut que les niveaux moyens. Alors là aussi, il faut essayer de comprendre cette prouesse. Je crois savoir qu'il y a une utilisation, disons, prononcée d'engrais chimiques derrière tout ça. Votre Ndung?
Tout à fait. Il y a un rendement grâce aux engrais chimiques, tous les intrants chimiques, mais la tendance est en train de changer parce qu'aujourd'hui, le consommateur, surtout dans les marchés, le premier marché du Vietnam, l'exportation du Vietnam, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, ces pays-là, ces consommateurs-là ne vendent plus depuis un certain temps des produits cultivés qui ne sont pas vraiment, on peut dire ça, de façon très amicale avec la nature. Qui qui fait que le rendement, c'est une chose, mais la marge producteur, c'est autre chose. Mmh. Plus on achète.
Alors, justement, sur la marge producteur, marge producteur, votre Undung, on va laisser pour l'instant de côté la question environnementale, qui est évidemment très importante, mais laissons-la de côté. Parce que ceux qui fournissent précisément cet engrais aux producteurs, c'est ceux qu'on appelle les collecteurs, qui récupèrent tout simplement les récoltes auprès des cultivateurs. Or, ces collecteurs, ils font l'objet de beaucoup de critiques au Vietnam, parce qu'on les accuse de faire pression sur les prix. En gros, les collecteurs fournissent les paysans en engrais, qui d'ailleurs l'achètent à crédit, remboursé après la vente de leur récolte. Et bien sûr, ça permet aux collecteurs d'imposer leur prix. Le rapport de force est totalement déséquilibré.
Oui, tout à fait. Comme les producteurs vietnamiens sont des petits producteurs, un peu comme au Brésil, mis à part quelques groupes importants vietnamiens qui ont leur propre plantation ou mettre les agriculteurs sous contrat, mais le producteur vietnamien en gagne très 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 peu. Il y a quand même 700 000 cultivateurs, plus environ 2 millions de personnes qui travaillent directement en relation avec la culture du café, mais ils n'en gagnent peu parce que ce que vous venez de le dire, et qu'ils achètent des intrants à crédit, ils en vendent à un prix déjà imposé, qui ne correspond pas vraiment à ce qui est coté à la bourse de Londres ou de New York. Et actuellement, le gouvernement vietnamien est en train de pousser les petits producteurs de se regrouper en sorte de coopérative. On revient un petit peu dans les années socialistes, dans les années 60-70.
Oui, pour faire un peu le poids face aux collecteurs, Philippe Juglar, je voudrais vous entendre sur ce cas vietnamien, à la fois peut-être pour analyser ce que j'appelais tout à l'heure un miracle, le miracle du café au Vietnam, qui est, on le voit tout de suite, un peu à nuancer quand on entend le rôle de ces collecteurs, la manière dont ils imposent une forte pression sur les prix aux producteurs. Et là, d'une certaine manière, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Juglar, sur cette corrélation entre la production de café et le développement du pays. On voit là que le Vietnam développe sa production de café et en même temps, on voit aussi très bien que ça ne profite pas à tous, loin s'en faut, et en particulier à ses producteurs, Philippe Juglar.
Bah, c'est tout à fait exact. Juste pour
tout à fait exact. Il faut le rappeler.
Il faut le rappeler. C'est important. Un petit mot sur les collecteurs. C'est une engeance que l'on trouve dans tous les mondes agricoles et dans tous les produits dès lors que les agriculteurs ne sont pas organisés. Alors en Amérique latine, on les appelle les coyotes. Ça veut bien dire ce que c'est. Ce sont effectivement ceux qui ont de l'argent dans la poche et qui sont prêts à acheter cash la récolte quand vous avez vraiment besoin d'argent. Vous êtes prêt à aller laisser partir à n'importe quel prix votre production. Mais c'était aussi, vous savez, au 19e siècle, les acheteurs de blé ou de farine dans les campagnes françaises. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait pour s'organiser face à ces collecteurs ? Ben, on organise des coopératives. On organise des coopératives avec une énorme difficulté dans les anciens pays socialistes marxistes comme le Vietnam, c'est que les coopératives, elles ont une très mauvaise image. Il faut donc reprendre le problème à la base pour expliquer aux paysans qu'une coopérative, c'est pas simplement fait pour les contrôler, pour les observer, mais c'est aussi fait dans leur intérêt, pour eux, par eux, de façon à ce qu'ils puissent mieux tirer leur épingle du jeu d'un marché qui, de toute façon, est horriblement difficile.
Alors, je vous en prie, poursuivez.
Pour revenir sur le Vietnam, qui était votre question, le Vietnam a su profiter d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché pour se positionner sur le marché des cafés Robusta, où la principale conséquence du succès du Vietnam a été la catastrophe dans les pays d'Afrique de l'Ouest, producteurs de Robusta qui ont perdu leur marché au profit du Vietnam.
Alors évidemment, pour le Vietnam, il y a une voie d'exportation qui est formidable, c'est la Chine. Les Chinois consomment de plus en plus de café. Là aussi, on est sur des progressions de l'ordre de 15-20% par an. Donc on voit bien que c'est une aubaine pour le Vietnam de pouvoir vendre son café à la Chine. Sauf que la Chine est déjà en train de penser à produire son propre café. Elle le fait déjà et elle va beaucoup le développer très probablement dans les années à venir, comme elle le fait finalement dans tous les autres secteurs. De façon générale, Philippe Juglar, je voudrais vous entendre sur cette question de l'effet que pourrait avoir de l'essor de la consommation chinoise, mais aussi derrière, forcément, de la production, dans ce grand commerce mondial du café.
Mon Dieu, si je le savais, je deviendrais riche.
Alors, vous y avez réfléchi.
Bien sûr, tout le monde y réfléchit. Une chose évidente, c'est que la Chine est passée au café Et d'une façon générale, d'ailleurs, tous les pays de thé sont passés au café. Rappelez-vous de nos amis anglais. Il y a 30 ans, ils buvaient du thé. Maintenant, probablement, le café expresso est meilleur à Londres qu'à Paris. Le Japon est un grand buveur de café. La Corée est un grand buveur de café. Donc, la Chine sera un grand buveur de café. Mais la Chine peut produire du café. Effectivement, tout le sud de la Chine, en particulier du côté de la frontière vietnamienne, est propice à la culture du café. Comment va-t-elle s'organiser? Va-t-elle faire face à la demande, à l'augmentation de la demande colossale de la Chine? Ça, ce sont des questions auxquelles je crois que personne n'est vraiment capable de répondre aujourd'hui.
Mais c'est sûr qu'il y aura des effets. C'est sûr qu'il y aura des effets.
Ça aura des effets. Mais c'est pour ça qu'un marché de matières premières, alors d'un point de vue géographique, économique, culturel, est toujours passionnant parce qu'il se passe toujours quelque chose et la configuration du marché est toujours différente. Je reviens sur le Vietnam 2 minutes.
Je vous en prie.
Parce que vous n'avez pas évoqué.
2 minutes, pas plus, parce que c'est ce qui nous reste pour arriver au terme de l'émission. Alors, faites en 1 minute, s'il vous plaît. Allez-y.
En 1 minute, le Vietnam a compris le danger et le Vietnam a commencé à produire des cafés arabica et a commencé à sophistiquer sa production et a largement développé sa consommation. Vous avez aujourd'hui au Vietnam des tas de petits points de vente de café tout à fait sympathiques où le café est bon.
Et où le café se boit froid, même glacé.
Exactement.
Philippe Juglard, moi j'en ai une toute dernière question, je vous laisse aller 45 secondes parce qu'on parlait de ces producteurs qui finalement ont du mal à tirer profit de leur propre production, de leur propre café. Ces dernières années, on a vu émerger de plus en plus de filières dites de commerce équitable visant justement à valoriser la rémunération des producteurs. Je crois qu'aujourd'hui ça représente à peu près 2% des échanges de café mondiaux. Quel regard vous portez en quelques mots sur ces filières? Est-ce qu'elles le sont vraiment équitables et est-ce qu'elles profitent vraiment aux petits producteurs?
Vous êtes très dur de ne me laisser que quelques secondes pour un problème qui est en soi un très vaste problème.
Il ne fallait pas être passionnant avant, Philippe Juglard.
Merci.
Allez-y.
Tout ça part de très bons sentiments. Et comme on le sait, l'enfer est pavé de bons sentiments. Et le résultat que j'ai pu voir dans certaines régions du monde n'est pas forcément à la hauteur des espérances de ceux qui ont initié ces projets et de ceux qui, avec beaucoup de bonne volonté, y participent dans les pays consommateurs. Être ouvrier agricole haïtien immigré dans une coopérative dominicaine de commerce équitable, c'est pas vraiment le bonheur.
Merci beaucoup Philippe Juglard. N'ayez crainte, nous allons réévoquer cette question cette semaine. Nous parlons jusqu'à jeudi de café. Alors ça sera peut-être pas avec vous, mais vous pourrez écouter vos autres collègues qui aborderont cette question. En tout cas, un grand merci à vous Philippe Juglard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant pour la société ABCD, Agrobusiness Consulting et Développement, et puis président de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Je remercie également Votrun Dung qui était avec nous, journaliste francophone. On l'entendait, basé à Ho Chi Minh Ville, la raison pour laquelle la liaison n'était pas excellente. Et puis je remercie également Martine Droulers qui était avec nous tout à l'heure. Ce sera demain, mais avant 11h53 minutes, presque l'heure pour nous de nous plonger dans le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous parlez de la politique européenne de la France, mais vu d'Allemagne. L'Allemagne n'a pas caché le soulagement éprouvé face à la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen à la présidentielle française. Mais ce n'est pas l'euphorie pour autant à Berlin. Que dit-on des projets du nouveau président français, Brice?
Eh bien primo, on a remarqué que contrairement à son prédécesseur François Hollande, Emmanuel Macron s'était abstenu de toute rhétorique anti-allemande durant la campagne électorale. Hollande, on s'en souvient, avait promis d'engager un bras de fer avec Merkel. Sitôt élu, il a réalisé la faiblesse de la position française vis-à-vis de l'Allemagne et il a renoncé à cette fameuse renégociation des traités européens. Macron, lui, est parvenu à se faire élire face à des rivaux qui étaient presque tous eurosceptiques ou europhobes, sans jamais rien concéder sur ce terrain. Il est donc perçu comme un partenaire non antagonique qui arrive au pouvoir avec beaucoup de projets de relance de l'Europe. Mais est-ce suffisant pour susciter l'enthousiasme des Allemands? Réponse du Spiegel, un homme a fait son entrée sur la piste de danse européenne qui est à la fois un allié et un adversaire de la chancelière allemande. Alors vous me direz, pourquoi un adversaire? Eh bien, je cite toujours Der Spiegel, parce qu'il se tient en travers de ce que l'Allemagne entend faire du bloc européen. Alors voyons en quoi. Publiquement, Angela Merkel a applaudi la victoire. Au départ, Macron n'était pas son favori. Elle préférait Fillon, dont le parti est allié à la CDU au sein du Parlement européen. Mais elle a progressivement découvert que sur certains dossiers, notamment l'attitude à observer envers Poutine, ses divergences avec Fillon auraient rendu difficile la définition d'une politique commune. Et puis, Macron ne s'est-il pas engagé à mener enfin les fameuses réformes structurelles attendues des Français? N'a-t-il pas affiché sa volonté de retrouver la maîtrise des finances publique française. La chancelière reçoit, adoube le candidat Macron, puis félicite le vainqueur. Mais deux jours après la proclamation des résultats de notre élection, devant les instances dirigeantes de la CDU, Angela Merkel se montre nettement plus circonspecte. L'élection d'un nouveau président en France ne modifiera pas l'approche allemande des questions européennes, dit-elle en substance. Macron a en effet de grands projets pour l'Union européenne. Avant d'entrer dans le détail, disons qu'il dit vouloir une Europe à la fois proactive et plus solidaire. Des idées qui ne vont pas de soi, vu l'Allemagne. Et voyons ces deux thèmes un par un.
Alors, une Europe proactive, dites-vous, en quoi ça pourrait contrarier la chancelière Angela Merkel?
Et bien, comme l'expliquait le grand théoricien de l'Europe néerlandais Luc van Middelaar dans un article récent de la revue Le Débat, Français et Allemands ont de la gouvernance des idées très différentes. La culture française favorise une politique de l'action. C'est un système qui requiert de l'incarnation. Il est destiné à produire des acteurs aptes à prendre des initiatives. La culture allemande, elle, favorise au contraire la politique de la règle. Le pouvoir, en Allemagne, on le sait, est dispersé, du fait notamment de la structure fédérale de l'État. La Cour constitutionnelle joue un rôle déterminant et le système électoral, qui fait la part belle au scrutin proportionnel, impose fréquemment, on le sait, au gouvernement de larges coalitions. Or, c'est la logique allemande, celle d'une dépolitisation par le droit, qui s'est imposée au sein de l'Union européenne, au détriment de la logique française qui est celle d'une politique événementielle. Mais comme l'écrit encore Luc van Middelaar, la dépolitisation et la politique de la règle ne favorisent pas le dynamisme. Et surtout, elles ont montré leurs limites face à des défis pourtant prévisibles, tels que la crise de l'euro et celle des migrants. Et les partenaires de l'Union européenne l'ont compris. Alors le discours que tient le président Macron aux Allemands est le suivant. Nous bénéficions en ce moment d'une période propice aux réformes en profondeur parce qu'elle est calme. Profitons-en pour nous mettre en état de faire face à la prochaine crise.
Alors ça, c'est pour le dossier proactif. J'imagine que sur le dossier solidarité, ça coince aussi, mais peut-être encore plus.
Oui, vous avez bien raison. Si on ne dit pas toujours franchement ce qu'on pense à la chancellerie à ce sujet, il n'est que de lire l'économiste Hans Werner Sinn pour deviner les arrière-pensées allemandes. Je le cite. « Que doit-on comprendre lorsque Macron préconise la création d'un ministère des Finances de la zone euro ayant compétence pour recourir à un endettement conjointement garanti et pour procéder à ses propres prélèvements d'impôts? Que faut-il comprendre lorsqu'il demande la mise en commun de la protection des dépôts bancaires et de l'assurance chômage dans la zone euro? Eh bien, l'objectif est tout à fait clair, dit l'économiste allemand, soutenir l'économie française au détriment des autres. Bref, vous l'avez compris, Macron est accusé du crime suprême, chercher à imposer à l'Allemagne, éternel payeur en dernière instance pour les folies des autres, une union de transfert. Or, dans la campagne électorale en cours, la chancelière joue sa réélection en se présentant comme le meilleur rempart des intérêts allemands face à un SPD accusé de brader les intérêts des contribuables en distribuant l'argent allemand à travers l'Europe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, sur lequel on peut écouter, réécouter vos chroniques, mais aussi Culture Monde. Dans un très court instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table, pas avec Olivia ce matin, mais avec Raphaël Bourgois. Ça sera dans quelques instants.